Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message La présence de Dieu non reconnue, prêché le 18 juin 1964 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Maintenant, bien que nos rassemblements sont petits, nous allons essayer de nous dépêcher, de sortir afin de pouvoir. Nous travaillons dans ce seul but, afin que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ. Voyez? S'il est présent, alors, eh bien, tout est réglé. Il a fait la parole, il est ici pour la confirmer, il prouve qu'il va la confirmer, il est juste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous l'avons vu le faire hier soir, sans faillir. Nous le voyons soir après soir, jour après jour, et année après année. Ça n'est jamais arrivé une seule fois qu'il ait prédit quoi que ce soit, indépendamment du moment quand cela est arrivé, parmi des milliers de fois, sans que cela soit parfaitement exact, à temps et juste. Combien savent cela et connaissent ce ministère et savent que c'est vrai? Voilà, pas une seule fois, même si c'était impossible, c'est quand même arrivé. Il est Dieu. Il est, si seulement nous le reconnaissions, nous pourrions nous en emparer. Maintenant, nous ne pouvons passer que peu de temps ici, je pense 3 soirs de plus, ou 2 soirs de plus, et une journée après ce soir. Je pense que la dernière réunion est dimanche après-midi. Nous essayons de terminer le dimanche après-midi pour que les pasteurs et tout le monde, nous ne pouvons pas vous empêcher d'aller à votre église. Nous voulons juste ajouter plus à l'église et vous donner plus de foi dans le Dieu que vous servez dans votre église, voyez. Et nous ne voulons pas que les portes de l'église soient fermées, d'aucune manière. Nous voulons que vous restiez là. Mais nous essayons simplement de vous aider, de vous encourager. Un réveil ne signifie même pas d'ajouter plus à l'Église. Un réveil signifie de raviver ce que vous avez déjà. C'est vrai. Un réveil. J'ai observé une fois au bord de la mer où un vent soufflait et tout s'agitait. Eh bien, ce n'était pas au bord de la mer, c'était au lac Michigan. Je tenais là à regarder les vagues comme elles venaient et oh, cette mer faisait des sauts où les eaux faisaient des sauts et les bateaux étaient ballottés. Je pensais, qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé, eh bien, le lac a un réveil, c'est tout. Il saute et s'agite. Pourquoi? Il y a un vent puissant qui se précipite sur lui. J'ai pensé, eh bien, tu sais quoi? Il n'y a pas une seule goutte d'eau de plus dedans que ce qu'il y avait quand il était parfaitement calme. Il n'y a pas plus d'eau dedans. Il est simplement tout agité. Eh bien, maintenant, pourquoi est-il si agité? Vous savez ce que cela fait agiter l'eau? Cela embalaye toutes les ordures jusque sur la berge. C'est ce dont nous avons besoin, un balayage de l'incrédulité sur la berge. Laissez la parole de Dieu avoir la prééminence. C'est ce dont nous avons besoin, un réveil, et de balayer toute l'incrédulité, tous les insectes et les superstitions, et ces choses, d'en sortir et de voir que Dieu est toujours Dieu. C'est pour ça que nous avons des réveils. Que le Seigneur nous aide alors que nous choisissons ce texte et nous le lisons pour ce soir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans Matthieu, le chapitre 12, les versets 38 à 42. Et mon sujet ce soir est la présence de Dieu non reconnue. Hier soir, nous parlions que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons vu qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, sa présence, il est le même, n'est pas reconnue. Lisons-le. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La présence non reconnue. À quoi pouvaient bien penser ces gens? Dieu a toujours, ça a été comme ça chaque fois qu'il est venu. Quand Jésus était ici la première fois, il a dit, « Vous vous blanchissez et vous ornez les murs et les tombes des prophètes, puis vous les mettez dedans. » Vous voyez, quelque chose est arrivé et c'est passé par-dessus les têtes. Et Dieu le cache aux yeux des sages et des intelligents et le révèle aux enfants qui veulent apprendre. Jésus a remercié le Père et de l'avoir fait ainsi. Voyez, ça se passe simplement autour des gens, ils ne le savent pas. Par exemple, vous les catholiques ici ce soir, vous vous souvenez, il y a quelques années, Jeanne d'Arc en France, la petite dame qui était vraiment, elle a dirigé la révolution en France, mais elle était vraiment une servante de Christ. Qu'est-ce que votre Église lui a fait? Elle l'a brûlée sur le bûcher en tant que sorcière, parce qu'elle avait des visions et qu'elle était spirituelle. L'Église catholique l'a brûlée comme une sorcière sur le bûcher, parce qu'elle était spirituelle et avait des visions. Quelques années plus tard, ils ont découvert que cette femme était une sainte. Alors, bien sûr, vous avez fait une grande pénitence, vous avez déterré le corps de ces prêtres qui l'avaient condamné et qui l'avaient brûlé et vous les avez jetés dans la rivière. Bien sûr que vous avez fait une grande pénitence pour cela en déterrant le corps de ces prêtres. Maintenant, du temps des prophètes, que s'est-il passé? Ils ont fait la même chose, ils ne les ont pas reconnus qu'une fois qu'ils étaient venus, que leur ministère était terminé, que les élus aient été retirés de là, et après qu'ils soient partis, ils ont reconnu qu'il y avait eu un prophète parmi eux. Jésus, il est venu sur la terre, en lui, il y avait Dieu le Père. Moi et mon Père sommes un. Mon Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Maintenant, si vous remarquez, quand il est venu, environ un 90e du monde savait qu'il était sur terre à ce moment-là. Et pourtant, le sauveur du monde. Et puis, ils n'ont jamais reconnu qui il était, même l'Église ou personne d'autre, presque, avant qu'il l'ait crucifié, enterré et qu'il soit ressuscité le troisième jour, avant qu'ils reconnaissent qui il était. Cela vient et repart, et les gens ne le reconnaissent pas avant que ce soit passé. Et eux, parce que ça ne correspond jamais à leur théologie, ça ne correspond jamais à l'heure du jour. Vous voyez ce que c'est? Ils vivent toujours dans le reflet d'un autre âge, toujours. La raison pour laquelle ils n'ont pas accepté Jésus, c'est parce qu'ils vivaient dans le reflet de la loi. Et quand Jésus est venu, ce n'était pas contraire à la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Eh bien, ils ne pouvaient pas l'accepter parce que son message n'était pas exactement comme le leur, plein de credos, et à l'époque, on l'appelait cela des traditions. Et il n'est pas venu selon leur tradition. Il n'a pas gardé leur tradition. À vrai dire, il l'a chamboulé, il l'a mis en pièces et a fait des choses qui étaient contraires, au point qu'il pensait qu'il divisait les églises. Il ne pouvait pas le recevoir à cause de son message. Nous savons tous aujourd'hui qu'il est venu exactement selon la prophétie de Dieu, mais il ne le savait pas alors. Et cela pourrait se produire de nouveau et nous le saurions. Pas. J'imagine que s'il apparaissait ce soir, ce serait tellement contraire à tout ce que nous avons imaginé dans nos plans et dans nos écoles et ces choses, il y en aurait très peu qui reconnaîtraient ce qui se passe. Il a dit qu'il en serait ainsi, la façon dont il viendrait. Maintenant, Jésus étant là, si scripturairement identifié par les Écritures et les scribes et les pharisiens de cette époque ne pouvaient pas le reconnaître, pourquoi ne le pouvaient-ils pas? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils l'avaient compris d'une autre manière. C'est là que Jésus leur a dit, « Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. » Voyez, maintenant il est venu tout à fait conformément aux Écritures, mais il avait compris autrement. Peut-être que s'il venait, le Messie allait probablement faire ce que Moïse a fait, ou ce que Noé a fait, se construire une arche ou quelque chose d'autre. Mais la raison pourquoi il est venu comme il l'a fait, il n'avait pas compris. Dans les Écritures, avec leur tradition, cela ne leur était pas enseigné, et ainsi les gens étaient tellement confus qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Je me demande si cela pourrait arriver aujourd'hui. Je me demande si cela pourrait être différent de ce que nos traditions nous ont enseigné, et cela pourrait arriver et quelque chose pourrait passer, nous ne le saurions même pas avant que ce soit déjà passé, et là, c'est trop tard. C'est à peu près la façon que ça va arriver. Savez-vous que quand Jean-Baptiste est venu sur la scène, cela avait été prédit depuis le livre d'Ésaïe des centaines d'années auparavant? Environ 800 ans, Ésaïe avait prophétisé, je pense, avant la venue de Christ. Savez-vous que Jean est venu exactement comme Ésaïe avait dit qu'il viendrait, il est venu exactement comme Malachie a dit qu'il viendrait, et même les apôtres ne l'ont pas reconnu. Un jour, dans Matthieu 11, Jean était en prison, et les apôtres, quelques-uns de ses disciples, sont allés demander à Jésus s'il était celui qu'on attendait, ou s'il devait en attendre un autre. Mais tu as remarqué, Jésus ne leur a pas donné un livre leur disant comment se comporter en prison ou comment se conduire. Il a dit, restez prêts pour voir ce qui se passe et allez montrer à Jean ce que vous avez vu se produire. C'était la preuve qu'il était cette parole. Et maintenant, souvenez-vous, la parole vient toujours à un prophète. Nous le savons tous, Dieu ne fait rien sans le montrer à ses prophètes. C'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ est l'entière plénitude de Christ, ici même, devant nous, le livre. Maintenant, il va devoir en envoyer quelqu'un pour confirmer ce livre, le révéler, ouvrir les sceaux et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne avoir plus de révélations de Christ, c'est déjà reconnu juste ici. Il est la plénitude de ceci, de la révélation. Maintenant, remarquez, ça ne manque jamais que la parole vient au prophète. Regardez, Jean debout dans l'eau, en train de prédire le prophète, que le Messie était juste au milieu d'eux. Il a dit, il y en a un parmi vous maintenant, que vous ne connaissez pas. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Maintenant, souvenez-vous, il se tenait là parmi eux, la Bible le dit, et ils ne l'ont pas reconnu. Un jour, quand Jésus est arrivé en marchant, Jean l'a reconnu, et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, remarquez, avant qu'il ne soit reconnu par quiconque, il est venu au prophète. Il était la parole. Jean était un prophète. Je me souviens de mon vieux professeur baptiste qui m'a dit, il a dit, tu sais ce qui est arrivé? Il a dit, Jésus a baptisé Jean. J'ai dit, je ne pense pas. Il a dit, bien sûr, Jean n'avait jamais été baptisé. Il est venu prêcher, baptiser. Personne n'était digne de le baptiser. Jésus l'a baptisé. J'ai dit, je ne sais pas. Et un jour, pendant que j'étudiais, le Saint-Esprit l'a révélé comme ceci, vous voyez. Regardez, il est allé dans l'eau. Il a dit, pourquoi viens-tu à moi? J'ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus a dit, laisse faire, regardez, car il est convenable, il est notre devoir que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean était un prophète, connaissait la parole. Le sacrifice qu'il était devait être lavé avant d'être présenté. Là, il était baptisé. Jean l'a baptisé parce qu'il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. La parole est venue au prophète dans l'eau. Et puis, quand il a été baptisé, encore là, les gens et le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Jean l'a vu. L'ange du Seigneur pourrait être ici, même ce soir, et peut-être qu'une seule personne pourrait le voir et personne d'autre. Cette lumière, cette étoile qui est passée au-dessus de chaque observatoire où les mages n'ont suivi, aucun observatoire n'en savait rien. Personne d'autre ne l'avait vu à part ces mages, parce que c'était eux qui devaient la voir. Ils l'ont vu. C'était réel pour eux. Quand la lumière, la colonne de feu, a jeté à terre Paul sur la route de Damasque, il a reconnu qu'il était en présence de Dieu. Maintenant, cet Hébreu n'aurait jamais appelé aucun autre esprit Seigneur sans savoir que c'était la même colonne de feu qui conduisait son peuple dans le désert. Il a dit, « Seigneur, qui es-tu? Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? » Il a dit, « Je suis Jésus. » Jésus a dit, « Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. » Il était ce feu qui était dans le buisson ardent qui a conduit Moïse à travers le désert et il est retourné à cela. Et maintenant, le voilà sur la route qui mène à Damas, jeté à terre. Et tous les hommes qui étaient avec lui, ils n'ont jamais vu cette colonne de feu. Elle était si réelle pour Paul qu'il a perdu la vue. Il a dû être conduit jusqu'à la rue droite à Damas. Il était aveugle. Ananias, un prophète là-bas, a eu une vision. Il est allé lui imposer les mains. Il a reçu le Saint-Esprit. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il pouvait voir de nouveau. C'était tellement réel pour lui qu'il avait perdu la vue. Et pourtant, aucun des autres ne s'est aperçu qu'elle était là. Il ne pouvait la voir. Il en est de même ce soir. Il y a quelqu'un assis juste là qui peut amener Dieu sur la scène quand l'autre n'en saura rien. Reconnaître Dieu. Jésus, quand il était ici sur terre, il avait pleinement accompli le signe que la Bible disait qu'il ferait, mais ils ne l'ont pas reconnu parce que ce n'était pas selon leur tradition. Pour cet âge-là, il ne devait pas venir et faire ce que Moïse avait fait. Il devait venir et naître d'une vierge. Et selon Deutéronome 18:15, il devait être un prophète. Il a exactement accompli ses œuvres et ses signes. Les Juifs ont toujours cherché des signes. On leur enseignait à ne jamais dépendre de discours intellectuels. Les Juifs connaissaient mieux que ça. Les Grecs enseignaient cela. Non pas des discours intellectuels, mais sur la base de signes. Montre-nous un signe. Ces gens-là, l'un a dit, Rabbi ou Maître, montre-nous un signe. Ils voulaient savoir. Il leur avait déjà montré le signe et ils voulaient un différent type de signe, mais ils ne pouvaient que faire le signe de cet âge. Il fait de même aujourd'hui. Ce déversement du Saint-Esprit est le signe de son apparition, même dans cet âge, comme il l'a promis. Ils veulent un signe. Il leur avait donné le signe scripturaire, mais ils voulaient un signe différent. C'est là que tant de gens aujourd'hui vont être confus. Vous savez, l'enlèvement pourrait avoir lieu et pensez seulement à la tristesse de cela. Laissez-moi revenir là où Jésus, Jean, a envoyé ses disciples là-bas pour voir Jésus, s'il était le Messie ou pas. En cette heure-là, il a fait beaucoup de choses. Quand ils sont revenus, les disciples, pour dire à Jean ce qu'il avait vu, Jésus avait dit à ceux qui étaient assis là, il avait dit, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Qu'êtes-vous allé voir quand Jean prêchait? Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits blancs et ainsi de suite, ou d'habits tristes? » Il a dit, ils sont dans les palais des rois, ils enterrent les morts, embrassent les bébés, marient les jeunes et tout. Ils ne savent pas manier une épée à deux mains. Il a dit, vous donc allez voir un roseau agité par le vent, quelqu'un, un certain groupe va lui offrir un peu plus d'argent, il va aller là-bas à celui-ci, plutôt qu'aller là où l'appel du Seigneur l'a appelé. Pas Jean, quelqu'un pourrait le tromper et dire, nous te donnerons plus si tu nies ceci pour accepter ceci. Pas Jean, il a dit, qu'êtes-vous donc allez voir un prophète? Il a dit, je vous dis plus qu'un prophète. Et si vous pouvez le recevoir, c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face, celui qui va préparer le chemin. » Et c'était Malachi 3, là où il l'a annoncé. Un jour, les disciples lui ont demandé, ils ont dit, « Pourquoi les disciples disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Jésus a dit, « Il est déjà venu, vous ne l'avez pas reconnu. » Et ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Ces apôtres élus ne pouvaient toujours pas voir qui il était. C'était cet Élie. Maintenant, regardez. Vous savez, la venue du Seigneur sera une venue secrète. Il a dit, de deux qui seront dans un lit, j'en prendrai un, je l'en laisserai l'autre. C'est là où il fait nuit. Deux dans un champ, j'en prendrai un et j'en laisserai un. Vous savez, il y a tellement de gens qui disparaissent chaque jour de la face de la terre que personne ne peut expliquer. Un de ces jours, il se peut que les gens vont dire, eh bien, vous voulez dire que la tribulation, que la chose est sur nous maintenant? Je pensais que l'Église allait partir avant la tribulation. Ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas que l'enlèvement pourrait avoir lieu sans qu'ils n'en sachent rien. C'est le départ secret de l'Église. Et pensez-y, les gens vont continuer de prêcher, disant qu'ils croient qu'ils viennent d'être sauvés. Ils vont ajouter à l'Église, ils vont construire des églises, ils vont continuer comme ils le faisaient à l'époque de Noé, et ainsi de suite, sans le savoir. Et l'enlèvement sera déjà arrivé. C'est déjà arrivé, vous ne l'avez pas su. Il y a des centaines de personnes qui disparaissent de la terre sans qu'on sache où ils se trouvent. Ils ne peuvent pas en donner l'explication. Quelqu'un s'en allait quelque part et ils n'en ont plus entendu parler. Et ce pourrait être l'enlèvement. Je vous le dis, mes amis, juste parce que nous sommes membres d'Église ou quelque chose comme ça, ça ne signifie pas grand-chose pour nous. Vous feriez mieux de boucler cette armure. Vous feriez mieux de prendre toute cette parole de Dieu et de vous y tenir et d'arrêter d'agir comme Hollywood ici. C'est rendu ici même, dans l'Église, et c'est une honte. Mais Hollywood brille, elle produit une lumière brillante. Et l'Église, aujourd'hui, elle essaie de se comparer à Hollywood. Christ n'est pas à Hollywood. Christ est dans l'individu. Hollywood brille ou Hollywood fait des reflets, tandis que l'Évangile rayonne avec humilité. Dieu n'est pas dans ces beaux et grands endroits et toutes ces choses que nous voyons. Il vient dans l'humilité sous la forme de la douceur et de la gentillesse. Il passe sans s'arrêter. Et si vous connaissez la parole, vous allez le voir. Celui qui a un œil pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Voyez, maintenant, aujourd'hui, ce qui a été identifié, il s'est identifié clairement aux croyants ce jour-là, ceux qui attendaient cela. Regardez Pierre et André. Regardez Nathanaël, aucun doute dans son esprit. Regardez la femme au puits, il n'y avait pas de doute en cela. Mais ces pharisiens, quelques jours avant où se situe notre texte de ce soir, l'ont vu faire cela et l'ont ensuite appelé Belzébul, un démon. Les œuvres avaient été accomplies. Ils devaient répondre à leur assemblée. Donc, la seule chose qu'ils pouvaient faire était de l'appeler un mauvais esprit. Belzébul était un démon, comme un diseur de bonne aventure ou quelque chose comme ça. Et tout le monde sait que la voyance est du diable. Il comparait alors qu'il était la parole, qu'il connaissait le secret du cœur et prouvait qu'il était ce prophète qui devait être suscité pour nous en ce jour, le prophète rédempteur. Et quand il a fait cela, l'Église de ce jour-là ont déclaré qu'il était Belzébul. Voyez ce qu'ils étaient? Il a dit, vous êtes aveugles, vous conduisez les aveugles. Ils n'entreront pas et ils ne laisseront pas entrer ceux qui sont sous leur conduite. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de découvrir la vérité. Nous devons connaître la vérité. Est-il le même? Est-il ici pour accomplir ce qu'il a promis d'accomplir? Sondez les Écritures et voyez ce qu'il est censé faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle John Wesley ou Martin Luther ne pouvaient pas continuer avec le message de Wesley. Ils l'ont organisé, c'est le plus loin que ça pouvait aller. Ensuite, Luther est venu, sorti de l'Église catholique, et lui, c'était un fou pour eux. Mais il avait le message de la justification parce que c'était la parole de Dieu, une promesse. Alors, après sa mort, ils ont organisé l'organisation de Luther. Puis, qu'est-ce qui est annulé? C'est devenu tout recroquevillé de nouveau. Et selon les Écritures, il devait paraître un autre âge de l'Église. Et quand il a apparu, l'âge de l'Église de Philadelphie a apparu, John Wesley. Et ce qui est arrivé a continué de se diriger vers l'Ouest tout le temps. Et quand c'est arrivé, il y avait l'âge de l'Église et John Wesley avait été suscité, mais Luther ne pouvait pas le recevoir parce qu'il s'était déjà organisé avec la justification. Il ne pouvait pas accepter la sanctification. Puis quand les Wesleyens se sont organisés comme ils l'ont fait et que les petites branches se sont détachées, ce qui est arrivé, le message pentecôtiste est arrivé avec la restauration des dons. Aucun d'eux ne pouvait bouger. Ils étaient déjà organisés. Maintenant, la partie pitoyable de cela est que les pentecôtistes se sont tellement organisés. Regardez le jour où nous vivons, ce qui est promis pour ce jour-ci. Où en sommes-nous? Nous avons continué d'avancer. La colonne de feu avance. Et les enfants d'Israël avançaient avec la colonne de feu ou ils retournaient en Égypte. Nous devons avancer avec la parole. Et aujourd'hui, nous devenons si paresseux, l'Église devient si mondaine et si indifférente et leurs esprits est si embrouillés par la télévision et nous aimons Suzy et certaines de ces vieilles choses et nous restons à la maison sur la montre où se trouve le cœur des gens. Vous pouvez leur dire que ces choses sont mauvaises et ils pensent que vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est? Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Voyez? Oh, le plus grand plaisir que je connais, c'est de prier jusqu'à ce que je puisse réaliser que je suis dans la présence de Dieu et le reconnaître. Je pense que cela devait être le plus grand plaisir de l'Église. C'est la présence du Saint-Esprit, de voir le Dieu qui a fait la promesse de se tenir parmi nous, sentir sa présence et voir sa parole et la voir être confirmée. Cela devrait donner la foi, faire des estropiés marchent, que l'aveugle voit, que le sourd entende, que le muet parle. J'ai été en Afrique du Sud, où j'avais 200 000 personnes sur la piste de course de Durban. Puis quand ils ont vu une fois cela se produire comme ça, après leur avoir expliqué juste d'une manière toute simple, et qu'ils ont vu une seule chose se produire, être révélée, 25 000 personnes ont été instantanément guéries du même coup. Ils ont rempli 7 chargements de camionnettes, des camions aussi longs d'ici, les 6 et 18 roues, comme ça, et les ont remplis de vieilles béquilles et tout. Des païens qui ne savaient même pas quelle était la main droite et la main gauche. Et le lendemain, M. Sidney Smith, le maire de Durban, m'a téléphoné et m'a dit, « Va à ta fenêtre du côté de l'océan Indien, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. » Et c'était l'escorte de police qui descendait la rue avec 7 de ces gros chargements, avec des centaines de personnes qui marchaient derrière. La veille, elles étaient dans les civières et les brancards et les transporteurs qu'elles avaient. Elles chantaient, « Crois seulement, tout est possible. » Une semaine auparavant, ils étaient en guerre, les uns contre les autres, garde indigènes, et les voilà en train de marcher bras dessus, main dans la main. Pourquoi? Ils avaient reconnu que le Dieu du ciel était apparu devant eux sous la forme de sa parole. Et nous, les Américains intellectuels, nous sommes assis. Ils vont se lever au jour du jugement et condamner cette génération pour ce que nous avons vu. Ça me rappelle une femme à Louisville, Kentucky, il n'y a pas longtemps. Elle avait un petit bébé, se promenait dans le magasin de pacotilles et elle faisait de petites choses. Elle essayait d'attirer son attention et le petit bébé continuait à regarder dans le vide. Et finalement, elle a ramassé une petite cloche, tout ce qui aurait dû attirer l'attention d'un petit garçon de cette taille. Et elle a secoué la cloche et le petit garçon regardait dans le vide, droit devant lui. Et elle s'est mise à crier, s'est écroulée. Certaines personnes sont venues à son aide. Elle a dit, « Oh, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, le docteur a dit que le bébé allait mieux. Ils ont dit, qu'est-ce qui ne va pas avec le bébé, madame? Elle a dit, eh bien, il a attrapé quelque chose il y a environ 6 mois et il reste assis là, regardez dans la Bible. Peu importe ce que je prends qui devrait attirer l'attention de ce bébé, ça n'attire pas son attention. Il reste assis là, regardez dans la Bible. Le médecin m'a dit qu'il pensait qu'il allait mieux. Je l'ai amené ici pour avancer de petits gadgets qui devraient attirer cet enfant et ça ne marche pas. Il reste toujours assis là, regardez dans le Bible. C'est comme ça que devient l'Église. Dieu a secoué toutes les promesses de la Bible devant eux. Mais nous restons assis là, regardez dans le vide, regardez quoi? Montrez-moi un signe, voulez-vous bien? Et ça continue tout le temps, tout autour de nous. En apportant la présence de Dieu, cela devrait nous éclairer. Quand Dieu a fait une promesse, il s'en tient à cette promesse. Oui, monsieur. Après que Jésus ait si clairement prouvé son signe messianique, qu'il était ce Messie, malgré tout cela, montre-nous un signe. Vous voyez, ils n'ont pas reconnu. Ils regardaient dans le vide, droit devant eux. Ce n'était pas en eux de croire. Vous, comme disait ma vieille mère dans, du Sud, on ne peut pas tirer de sang d'un navet, car il n'y en a pas. Ils ne le reconnaissaient toujours pas, tellement aveuglés par leur credo et ainsi de suite qu'ils avaient en ce jour-là. Ils n'ont jamais connu les Écritures de la promesse parce que ces credos les avaient dissimulés. Leur credo et les traditions de ce jour-là avaient dissimulé la promesse de la Bible. Si on leur avait enseigné selon l'Écriture que cela devait être le signe qui accompagnait le Messie, combien croient qu'il est venu avec son signe approprié? Bien sûr, qu'il l'a fait. Il est venu selon la promesse, mais on leur avait enseigné un credo. Nous croyons en ceci et nous croyons en cela. Ils croient tous en Dieu, tous. Aujourd'hui, nous, les Américains en particulier, nous pensons que nous allons être excusés parce que nous construisons de grandes églises et que nous avons de bons pasteurs et ces choses. Rappelez-vous, si tel était le cas, Dieu est injuste. Il nous fait entrer comme ça. Car Caïn et Abel, les deux premiers adorateurs en dehors de l'Éden, ils ont construit un autel pour le Seigneur. Tous les deux ont offert des sacrifices. Tous les deux ont faire des dons. Tous les deux ont prié, mais l'un était juste et l'autre avait tort. Remarquez, nous devons avoir la vérité, et la vérité est la parole de Dieu, toujours. Maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens deviennent si aveuglés. Ils disent, et je dis, êtes-vous chrétien? Oh, je fais partie d'une telle et telle chose. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Je n'ai rien contre cela, mais ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire. Appartenez à l'Église que vous voulez. Votre marque ne fait aucune différence. Je disais au pasteur ce matin, là-bas au Colorado, où j'avais l'habitude de rassembler le bétail, et ainsi de suite. Et j'avais l'habitude de m'asseoir là, la jambe en travers de la selle, comme ça, et le bétail de l'association Troublesome River Fern brute dans la vallée de Troublesome River. Puis vous arrivez au bout de la vallée, il y a la fourche Est et Ouest. Tout le bétail d'ici dans l'association broutait dans la fourche Ouest. Et le troupeau avec lequel j'étais broutait dans la fourche Est. Puis il y avait la barrière de déviation là pour garder le bétail en dehors des propriétés privées et dans le haut des montagnes durant l'été. Et nous rassemblions le bétail, 4 ou 5 marques différentes, 8 ou 10 marques différentes sur la rivière. Nous rassemblions nos bêtes au printemps et les menions là-haut. Et j'avais l'habitude de m'asseoir là, la jambe par-dessus le pommeau de la selle après que nous ayons tout le bétail. Ils étaient tous marqués et tout, et on les faisait passer dans le pâturage. Et le ranger se tenait là. Il les comptait alors qu'elle entrait. Et j'ai remarqué qu'il y avait toutes sortes de marques. M. Grimm avait les Diamond Bar, et juste au-dessus de nous, il y avait les Turkey Track. Nous avions les Old Tripod. Il y avait différentes marques qui traversaient là. Mais le ranger ne remarquait pas la marque. Il ne portait attention qu'à l'étiquette de sang sur l'oreille. Rien ne pouvait entrer dans ce pâturage pour protéger les associations d'éleveurs, pour garder leur bétail pur race. Rien ne pouvait entrer là sauf Hereford pur sang. Il devait être marqué à l'oreille par l'étiquette de sang. C'est comme ça que ce sera au jugement. Il ne va pas me demander si j'étais un méthodiste, baptiste, presbytérien. La marque que je porte ne signifie rien pour lui. Ce n'est rien d'autre qu'un chrétien né de nouveau, un chrétien né du sang de Jésus-Christ. C'est ça qui va y entrer. Rien de moins que ça va y entrer. Maintenant, nous voulons nous souvenir, nous rappeler de cela. Maintenant, quand il n'est pas reconnu, sa puissance est toujours pas révélée. Quand il n'est pas reconnu, peu importe combien Dieu est présent, vous devez le croire, c'est tout. Comme la femme avec la perte de sang, tous ces gens qui passaient, tous ces gens qui étaient là, disaient, voilà, le rabbin qui arrive, c'est le type qui prétend être un prophète, c'est le fanatique et tout ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Cette petite femme avait une perte de sang et elle avait entendu parler de lui. Et quand elle est descendue là, peu importe ce que quiconque disait, elle a reconnu qui il était. Et elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement. Voyez, Et quand cette foi authentique en Dieu est devenue une chose positive pour elle, qu'est-ce que cela a libéré? Cela a libéré sa puissance pour la guérir. Cela l'a touché de telle manière qu'il s'est retourné et lui a dit ce qui n'allait pas avec elle. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa foi. Les autres qui se trouvaient là étaient peut-être plus malades qu'elle, mais voyez-vous, elle a reconnu sa présence. Elle savait que c'était son opportunité. Si seulement nous pouvions faire ça ce soir, mes amis, si nous pouvions seulement reconnaître qu'il nous apparaît dans ces réunions dans un seul but, c'est pour libérer nos désirs que nous avons en lui pour nous. Mais nous devons reconnaître sa présence. Et maintenant, le moyen de reconnaître sa présence est quand la parole promise pour cette heure-ci est rendue manifeste. Non pas la parole promise de l'âge de Moïse, ni aucun des autres âges, la promesse de la parole pour cet âge-ci. Maintenant, nous découvrons qu'il a continué son chemin. Et Jairus, un petit homme là-bas dont la fille était morte, elle, il croyait que ce qu'il disait était la vérité. Maintenant, rappelez-vous, il était sacrificateur et il y était défendu car il avait été clairement dit que quiconque s'associait à lui serait expulsé de la synagogue. Eh bien, qu'il soit expulsé ou pas, il était satisfait que Dieu était présent en Christ et que c'était la parole. Et qu'est-ce que cela a fait? Cela a libéré la puissance de résurrection qui était en lui. Amen. Cela a ressuscité une fille qui était morte et reposait parce qu'il a reconnu que Dieu était en Christ et que sa présence était dans sa maison. Mais dans la ville où il avait grandi, cette même puissance était en lui, dans la ville où il avait grandi, mais ils ne l'ont jamais reconnu. Sa présence, pour eux, ne signifiait rien. Peut-être un fanatique. D'où viennent ces choses? Ils me disent que tu fais ceci et cela. Laisse-moi te voir faire ceci. Avez-vous déjà entendu ça? S'il vous, vous, ça, le pentecôtiste, et vous autres qui croyez en la guérison divine, voici un tel ici, laisse-moi te voir le guérir. C'est le même vieux diable. Le même qui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Le même vieux diable, quand on a couvert ses yeux, ils l'ont frappé sur la tête avec un bâton en disant, maintenant, s'il se passait le bâton l'un à l'autre, il disait, dis-nous qui t'a frappé et nous te croirons si tu es un prophète. Il n'a jamais, il ne fait pas le bouffon pour personne, oui. Le même, lorsqu'il était sur la croix, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et prouve que tu es le Fils de Dieu. Il aurait pu le faire. Ils lui ont payé le plus grand tribut qu'il ait jamais eu là, mais ils ne le savaient même pas. Ils ont dit, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver. S'il s'était sauvé, il n'aurait pas pu sauver les autres. Il s'est donné afin qu'il puisse sauver les autres. Vous voyez, ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu, c'est tout. Maintenant, cela libère la puissance pour guérir. Et quoi? Cela va libérer la puissance qui ouvre vos yeux pour que vous puissiez le reconnaître. On va aveugler vos yeux pour que vous ne puissiez pas le reconnaître jamais. Ce qui ouvre les yeux de l'un ferme les yeux de l'autre. Mais dans la ville, il n'avait aucune confiance en lui. À la maison du pharisien, il l'a invité à venir chez Simon, un pharisien qui avait préparé un grand souper. Et ce pharisien voulait leur prouver qu'il n'était pas prophète. Donc, il était là à porter des toasts avec ses verres et ses gobelets, avec tous les parfums raffinés dans la maison. Et Jésus était entré sans passer par le larbin, laveur de pieds, et s'était assis là. Et sale, l'odeur du champ sur lui, où les animaux avaient circulé sur le chemin et ses vêtements, c'est pour ça qu'il lavait les pieds en ce temps-là. Et vous savez, la première chose, lorsque vous étiez invité dans une maison en Palestine, quand il portait des sandales, la première chose qu'il faisait était de vous laver les pieds, puis de vous donner quelque chose pour marcher sur leur tapis. Les grands tapis de Perse et ces choses étaient très beaux. La chose suivante qu'il faisait, il mettait alors un peu d'huile dans votre main. Elle provient d'une petite pomme que l'on retrouve très loin dans la montagne, la pomme de rose. Après que la rose tombe, elle laisse la pomme et de bons parfums. Ils frottent sur leur visage et ces rayons directs du soleil palestinien sont horribles et vous voyez, cela crée une odeur. Et puis quand vous avez fait cela, alors l'autre vient à la porte et il les embrasse dans le cou et les accueille. Comme ces larbins ont-ils pu laisser Jésus passer sans lui laver les pieds ou lui donner de l'huile pour qu'il se roigne ou même lui donner le baiser de bienvenue? Mais il y avait une petite prostituée là-bas dans la rue. Tous ces religieux qui étaient là, aucun d'eux ne l'a reconnu. Il y a une petite femme de mauvaise vie, elle a regardé à travers peut-être la porte et elle l'a vu assis comme un papier peint. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui parmi les religieux. Un papier peint, sans être accueilli, non désiré, souillé, sale, un exalté qu'il l'appelle, une sorte de personne qui n'est pas saint d'esprit, un diseur de bonne aventure, de la télépathie mentale, ou une sorte de nom démoniaque. Et Jésus, je vais y arriver dans quelques minutes, a dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu pour faire la même chose, un seul mot ne vous sera jamais pardonné, vous voyez? Mais là, cette petite femme a vu qu'il avait besoin d'un service. Et elle s'est vite empressée d'aller chercher une boîte d'alabâtre remplie d'huile. Elle a dû l'acheter avec l'argent de sa prostitution. Mais qu'est-ce que c'était? Il a peut-être pensé, il est un prophète. Mais je me souviens d'une autre femme dans ma condition, une autre personne comme moi. Elle a eu l'opportunité, elle l'a reconnue et elle a été pardonnée. Là-bas, au puits de Sichar, hier soir, nous en avons parlé. Et si je peux seulement arriver à lui, je sais qui il est. Je vais lui rendre service. Et les autres, peu importe ce qu'ils font, je vais lui rendre service. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Et elle est entrée en courant, elle est arrivée près de lui. Et elle se sentait si coupable. C'est ainsi qu'un vrai pécheur repentant se sent dans sa présence. Coupable! Et les larmes ont commencé à couler, elle essayait de les cacher, elle tombait sur ses pieds, elle s'apprêtait à loindre, mais les larmes tombaient sur ses pieds, elle a commencé à les essuyer, et elle pleurait, et elle les essuyait avec ses mains, et ses pieds devenaient tout boueux avec la saleté qui était dessus. Et vous savez, vous voulez vraiment y croire, avec l'odeur des animaux sur la route, tout le monde parcourait le même chemin, il était là, puantant sur lui, assis là, ses larmes tombaient sur ses pieds, et elle essayait de les essuyer, elle n'avait pas de serviette. Qu'est-ce qui est la beauté et l'honneur de la femme? C'est sa chevelure. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, les femmes aujourd'hui, les avez toutes coupées. C'est mal. Elle a pris ses cheveux et elle a commencé à laver ses pieds et les a essuyés avec sa jolie chevelure pour prendre son odeur sur elle-même. Elle portait son opprobre. Oh là là, c'est là que vous reconnaissez qui est en votre présence. Vous voyez, nos sœurs devraient presque se tenir sur la tête pour avoir assez de cheveux pour faire ça. Alors là, elle a lavé ses pieds, elle les a essuyés avec les cheveux de sa tête et elle a embrassé ses pieds. Et ce vieux Simon debout là a dit... Oh, je peux le voir exploser. Il n'a pas reconnu qui il était. Il a dit, je vous ai dit qu'il n'était pas un prophète. S'il était un prophète, il aurait reconnu quel genre de femme est près de lui. Jésus n'a jamais bougé un seul pied. Il la regardait simplement et elle avait peur. Puis après qu'il eut terminé, qu'elle lui eut rendu service, il a regardé et il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as invité ici. Tu m'as fait venir ici, autrement dit, un atout dans sa manche. Tu voulais me dénoncer, tu voulais prouver que je ne suis pas ce que je suis. Et toi, quand tu m'as amené ici, tu aurais dû me faire laver les pieds, mais tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû me donner de l'huile pour oindre ma tête, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as jamais donné le baiser de bienvenue. Et cette femme, depuis que je suis ici, a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux et a constamment embrassé mes pieds depuis que je suis ici. J'ai quelque chose contre toi, Simon. Il s'est tourné vers elle, je peux juste l'imaginer debout là, avec ses beaux grands yeux remplis de culpabilité, son visage où elle avait de la graisse et de la poussière de la route sur son visage. Puis elle se dit, maintenant, ai-je mal agi? Il a dit, et je lui dis, ces péchés qui sont nombreux sont tous pardonnés. Va en paix. Qu'est-ce que c'était? Elle avait reconnu. Elle a reconnu son opportunité, vous voyez? Elle l'a fait. Elle lui a rendu un service. Les pharisiens ne l'ont pas fait. Elle l'a vu et elle a reconnu sa présence. Et qu'est-ce que cela a fait? Cela a lavé. Qu'est-ce que cela a libéré pour elle? Le pardon. Lui a été accordé le pardon de ses péchés. Qu'est-ce que cela a aussi fait? Cela a également libéré la puissance de Dieu pour montrer à ses incroyants qu'il était un prophète. Il savait qui il était. Cela a également libéré la joie et la puissance et la vie éternelle. Cela a libéré ça. Mais celui qui a fait qu'un énorme clou soit planté dans ses pieds précieux, il n'a jamais reconnu la présence de Dieu en lui. Il voulait lui aussi qu'il lui fasse un tour de passe-passe, du divertissement. Qu'est-ce que le monde veut aujourd'hui? C'est un tas de divertissement. Ils ne veulent pas de l'Évangile, ils veulent être divertis. Et Pilate a dit, j'aimerais désirer un miracle de sa part, ou quelque chose comme ça. Amenez-le ici. En plein dans la présence de Dieu. Et il l'a rejeté parce que quoi? Qu'il appréciait l'opinion publique plus qu'il appréciait d'avoir la possibilité d'être dans la présence de Dieu. qu'est-ce qui est arrivé? La femme a été pardonnée et a reçu la vie éternelle, mais lui a perdu son esprit et est devenu fou puisqu'il s'est suicidé en se noyant délibérément en Suisse. Maintenant préoccupé, tellement préoccupé de la vie populaire de cette époque qu'il était Belzébul, il n'était qu'un imposteur, il n'y avait vraiment rien de vrai de concernant il. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à son opportunité dans la présence de Dieu. Il aurait pu être pardonné. Il a dit, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Il a dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné de mon Père. Il aurait dû savoir s'il avait connu l'Écriture. Et lui, étant juif, aurait dû savoir cela. Mais voyez-vous, les traditions lui avaient été enseignées. C'est la même chose aujourd'hui. Si seulement il avait été enseigné de la bonne façon, si cet homme avait cru ce que dit les Écritures, mais sa tradition l'en a empêché. Il en est de même aujourd'hui. Les gens vont prendre le véritable évangile où le Saint-Esprit entre et la puissance et la gloire de Dieu libère les pécheurs du péché, les rend libres et les baptise du Saint-Esprit, guérit les malades et montre les signes et les prodiges et les gens vont s'en éloigner en disant, ah, maintenant, vous savez ce que croit mon Église, c'est un non-sens. Vous renoncez, vous vendez votre droit d'aînesse, un autre Ésaü. Il y en a tellement qui ont la même opportunité aujourd'hui de se tenir dans sa présence, tout comme eux l'ont fait auparavant. Et pourtant, à cause de l'opinion populaire, ils le rejettent. Dans la présence de Dieu, je me demande, mon ami, ce soir, si nous, les gens qui sommes chrétiens, dans sa présence, et malades, si nous ne rejetons pas l'opportunité d'être guéris en croyant en lui simplement. Nous qui prétendons croire en lui, nous ne reconnaissons pas vraiment sa présence, ce qu'il a promis de faire aujourd'hui. Confirmé par la promesse pour aujourd'hui, Jésus réprimandait cette génération pour ne pas avoir cru à son signe messianique. Nous le voyons ici, il les réprimandait, il l'appelait Belzébuth. Il voulait qu'il accomplisse le signe de Moïse, peut-être d'ouvrir la mer rouge. Il voulait qu'il accomplisse le signe de David, de prendre le trône et le gouvernement. Mais aucune écriture ne disait qu'il allait faire cela. Il devait être un prophète. Il vient, le roi. Mais alors, il devait être un prophète. Il a accompli le signe que Dieu avait dit qu'il ferait dans ces jours-là. Et encore là, il voulait qu'il accomplisse un signe qui les satisferait. Voyez? Et je me demande si nous ne cherchons pas trop loin quelque chose qui est juste à côté de nous. Je me demande si ça pourrait être la même chose, si nous pourrions passer à côté de notre opportunité. Rappelez-vous, comme les types d'autrefois, les types ne peuvent jamais se briser. Le dernier signe, selon Jésus, il a dit, comme il en était au jour de Sodome, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu maintenant, quand le Fils de l'homme sera révélé. Regardez ici où ça en est aujourd'hui. Mes amis, je pourrais vous dire des choses ici qui ne seraient pas bien que je vous dise, mais cela vous ferait peur. Je vais vous poser une petite question alors que nous arrêtons avant que nous continuions ce service, seulement quelques minutes. Je me demande si je peux vous demander ceci. Tout le monde sait que le monde positionnellement, tout est en place pour sa venue. Les tremblements de terre en divers lieux, la lune fait gicler du sang rouge ou des volcans rouges partout, la recouvre, comme l'a dit Jésus, surveiller ce signe dans les derniers jours, la mer rugissante, le cœur des hommes qui défaille de peur et des tempêtes. La détresse entre les nations. Regardez le déchaînement de la perversion aujourd'hui. Regardez ça aujourd'hui. 40% d'augmentation en Californie des homosexuels, des affections naturelles déjà perdues. Regardez aujourd'hui comment les gens vont rester à la maison, ils se disent chrétiens, ils écoutent des personnages tels que Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford et ceux qui chantent des hymnes le dimanche. Ils regardent ces choses, ils les regardent embrasser des femmes et des choses de l'extérieur, alors qu'aucun homme ne devrait embrasser une femme avant d'être marié à elle. C'est le croisement des glandes mâles et femelles. Peu importe où, qui que ce soit, c'est faux. C'est potentiellement un acte sexuel. Lorsque les glandes mâles et femelles se touchent, c'est un acte sexuel. Et c'est fait. Un homme qui embrasse un homme sur la bouche, ça le ferait vomir, ou une femme. Pourquoi ce serait différent? C'est potentiellement un acte sexuel. C'est vrai. Un type de Christ qui embrasse son épouse, voyez? Vous ne devriez jamais faire cela. Mais regardez aujourd'hui tous ces films et ces choses. C'est un grand conglomérat d'embrassage et d'étreinte. C'est presque absolument de l'adultère en public. Partout. Et les gens sont si aveugles qu'ils ne le voient pas. C'est vrai. Tout est dans un état sodomite partout, comme la Bible le dit. Il y a tant de choses. Regardez en ce jour-ci ce qu'il a dit qu'il allait se produire. Regardez les promesses qu'il a faites qu'il allait se produire. Ensuite, examinez-les, ce qui se passe. Et voyez où nous en sommes. Alors vous verrez s'il est encore dans sa parole ou pas. Ils voulaient voir le signe de Moïse, le signe de David. Ce n'était pas pour leur âge. C'était promis pour l'âge de Moïse et ces âges-là. La promesse de cet âge-ci doit s'accomplir. Il leur avait montré clairement, lui, par l'Écriture, et les a invités à sonder l'Écriture pour voir dans quel jour ils vivaient. Il fait la même chose en ce moment même. Sondez l'Écriture, vous qui croyez la Bible. Qu'est-ce qui est censé se produire ici même avant sa venue? Regardez le monde dans la position maintenant, ça c'est le monde. Regardez l'Église, où elle en est. Regardez où elle en est. Elle s'éloigne, tiède, Laodicée, elle met la parole dehors. Toute la chose se dirige dans le grand conseil des Églises, le conseil mondial des Églises. Cela forme la marque de la bête, alors que la Bible proclame que c'est faux. Et toutes ces choses, et pourtant les protestants se dirigent tout droit là-dedans, la tête baissée, mais ils ne connaissent pas l'Écriture, leur tradition. Oh, ils veulent un homme puissant, et ils vont en avoir un. Ils verront à ce qu'ils l'obtiennent. Il avait regardé, mais Jésus avait parfaitement déclaré lui-même qui il était et il leur avait prouvé qui il était dans son âge. Et c'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, regardez, prenons cette illustration de Luc 17, comme elle en était au jour de Sodome. Regardez le monde. Regardez l'Église, une condition sodomite. Regardez où Lot en était lorsque ces hommes ont même essayé de forcer la porte pour ces anges, ces hommes. Notez, regardez ici. Regardez, Abraham était sur la montagne. Il n'était pas dans Sodome. C'était un type. Il y a toujours trois catégories de personnes dans un rassemblement religieux. Des croyants, des soi-disant croyants et des incroyants. Toujours ces trois-là. Et les voilà. Il y avait des sodomites incroyants, les soi-disant croyants, Lot et Abraham, l'Église élue. Maintenant, regardez leurs messagers de ce jour-là. Deux messagers sont descendus et ont prêché à Sodome. Ils ne faisaient pas de miracles, ils les ont simplement aveuglés. C'est ce qui fait la prédication de la parole. Mais portez attention au genre de miracle que cet ange qui est resté avec Abraham a fait. Il avait le dos tourné, il a dit à Abraham que son nom avait été changé. Il l'avait appelé Abraham au lieu d'Abram. Il ne pouvait pas avoir le bébé avant que son nom ait été changé, ni Sarah. Il leur a dit quel était leur nom. L'ange leur a dit. Et il a dit qu'il allait visiter Sarah selon la période de la vie. Et Sarah a ri à ce sujet. Et quand Sarah a ri, l'homme avait le dos tourné. L'homme qui mangeait la chair du veau et buvait le lait de vache et mangeait du pain, un homme avec la poussière sur ses vêtements, un voyageur, c'était Dieu lui-même. Et Abraham l'a reconnu parce qu'il connaissait les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah derrière lui. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle dit en elle-même, comment ces choses peuvent-elles être possibles? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Voyez, Sarah est sortie en courant et l'a nié. Il a dit, oui, mais tu arrives. Maintenant, il aurait pu prier la vie de Sarah juste là pour ne pas l'avoir cru. Mais voyez, elle était une partie d'Abraham. Et notre incrédulité dans sa grande manifestation à cette heure, nous sommes une partie de Christ. Il vient, voyez, nous sommes, voyez, il doit la garder. Maintenant, remarquez, il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire des âges de l'Église. Je connais un véritable étudiant à qui je parle, un historien. Il n'y en a jamais eu. Je demande à tout étudiant de la Bible de me nommer un homme qui ait déjà été envoyé à l'âge de l'Église, dans cette Église, depuis la crucifixion de Christ, un ministère à l'échelle mondiale dont le nom se terminait par H-O-M comme A-B-R-E-H-O-M, jusqu'à ce jour. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin, mais où y a-t-il un G-R-A-H-O-M avant? Billy Graham, le grand évangéliste là-bas parmi les dénominations qui sont dans Sodome. Jamais! Il y a un Oral Roberts moderne là-bas avec les pentecôtistes. La même chose. Saviez-vous cela? Mais H-A-M, maintenant, G-R-A-H-A-M ne contient que 6 lettres, mais A-B-R-A-H-A-M contient 7 lettres. 6 est le chiffre de l'homme, l'organisation de l'homme, les œuvres de l'homme. Mais A-B-R-A-H-A-M contient 7 lettres. Maintenant, remarquez. Dans l'Église élue qui en est sortie, pas cette dénomination, mais l'Église élue qui doit se démarquer, elle doit avoir un messager elle aussi dans ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comparez-le avec ce que Jésus a dit. Jamais auparavant dans l'histoire avons-nous eu cette représentation avec les mêmes signes qui allaient être accomplis. Ne réalisez-vous pas, mes amis, ne reconnaissez-vous pas que c'est Dieu qui est venu dans l'Évangile, dans son peuple, qui se fait connaître? Ne pouvez-vous pas reconnaître l'heure dans laquelle nous vivons? En sommes-nous juste rendus à taper un peu des mains, jouer du piano et de réciter ceci, et à nous éloigner de la parole jusqu'à ce que nous soyons aveugles à ce point? Certainement que non. Reconnaissons l'heure dans laquelle nous vivons. Pierre, Nathan, ou Nathanaël plutôt, et la femme, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu son signe, le signe messianique. Même chose que ce que je dis maintenant. Et puis pour cet âge-ci, Jésus a dit, maintenant regardez, il se référence au passé. Maintenant, il leur parle d'un âge. Dieu, dans n'importe quel âge, quand il a envoyé son message, qui était sa parole, il l'a identifié pour cet âge, pour les gens qui le croyaient. C'était un grand moment pour eux. Pour les gens qui ne le croyaient pas, sont allés dans le chaos. Cela a toujours été. Comme au jour de Jésus, c'est la même chose. Regardez-le de vous ici maintenant. Il a dit, comme il en était au jour de Jonas, dans Jonas, car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine 3 jours et nuit, il en est de même pour le Fils de l'homme. Il a dit, une génération méchante et adultère demande un signe. Maintenant, vous savez ce que je pense qu'il faisait? Il prophétisait. Une génération méchante et adultère. Je me demande si un homme Saint-Esprit pourrait nier que nous vivons dans une génération méchante et adultère, car les homosexuels, la perversion et le taux de divorce en Amérique est plus élevé que toute autre nation dans le monde, et le monde entier est entré dans ce chaos-là. 3 personnes sur 4, presque, sont divorcées environ. Si on prend toute la chose en 10 ans de mariage, voyez, pensez-y. Il divorce, se remarie, il se remarie encore, il divorce, se remarie, il mangeait, buvait, mariait des femmes et donnait en mariage. Regardez l'heure dans laquelle nous vivons. Quand y a-t-il eu un tel chaos? Une génération méchante et adultère demande un signe. Remarquez, ils recevront un signe. Quoi? Cette génération-ci. Car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine 3 jours et nuits, le Fils de l'homme doit être dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Quel signe cette génération méchante et adultère recevra-t-elle? Le signe de la résurrection. Et aujourd'hui, après 2000 ans, nous voyons encore Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection se tenir parmi nous, accomplissant les choses qu'il a faites alors et avait promis de faire. Une génération méchante et adultère demande un signe, disant toujours, « Montre-moi ceci, et si tu peux faire ceci et faire cela. » Nous vont l'avoir, le signe de la résurrection. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole manifesté qui habite parmi nous, comme nous devrions remercier Dieu pour son grand signe. Remarquez, il fait référence à quelque chose d'autre là. Il a dit, et comme la reine du Midi se lèvera, qui est la reine de Séba? Écoutez bien maintenant. La reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, ici, il y a plus que Salomon. Remarquez, référons-nous à cela quelques minutes. Il lisait la même Bible que nous lisons au sujet de Jonas. Il était en train de lire sur Salomon. Maintenant, quand l'âge de Salomon est venu, il avait un don de discernement. Et tout le peuple, la nation tout entière, y croyait. Tout le monde était d'un même cœur et d'un même accord. Tout le monde y croyait. Si tout le monde, ce soir, si toute l'Amérique revenait tout simplement à Dieu et croyait en Dieu, c'est la meilleure assurance que nous ayons, meilleure que tous les abris nucléaires et tout le reste. Personne ne se jouait de Salomon. Il avait peur de lui parce qu'il était un homme qui avait un don. Et le peuple croyait en lui de cette façon. Il était envoyé par Dieu au point qu'ils en ont fait le roi. Toutes les nations les craignaient, non pas à cause de leur puissance militaire, mais parce que Dieu était avec eux. Et si cette nation qui prétend être chrétienne, si seulement elle pouvait tous ensemble se rallier autour de ce grand don qui nous a été donné dans ces derniers jours, le Saint-Esprit de Dieu sur l'Église, pas le credo, l'Esprit de Dieu, non par la puissance ni par la force, mais par mon Esprit, dit Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, sous la forme de l'Esprit sur nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement, faisant que cette parole vive ce qu'il a dit qu'elle ferait. Observez attentivement maintenant. Oh, les nouvelles sont allées à travers le monde. Ils ne disposaient pas de télévision et de radio et de ces choses. En ce jour-là, ça allait de bouche à oreille. Et après un certain temps, les grandes caravanes arrivaient du désert du Sahara qui se trouve à 3 mois de voyage de la Palestine jusqu'à l'endroit où elle habitait. Et la foi vient de ce qu'on... Quoi? Entends. c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Et elle avait entendu parler de cette grande réunion qu'ils avaient là-bas. Et chaque fois qu'une caravane arrivait de cette direction, elle le questionnait. Avez-vous, elle doit aller dans la Palestine? Oui. Oh, qu'en est-il? Oh, c'est au-delà de tout. Vous n'avez jamais vu un tel discernement. Et c'est comme avoir un Dieu assis là. Leur Dieu est représenté dans un homme appelé Salomon. Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Le petit cœur de la reine a commencé à avoir faim d'aller s'enquérir à ce sujet. Voyez, elle avait été ordonnée à la vie. Remarquez, maintenant, la première chose à faire maintenant, puisqu'elle était païenne, il fallait qu'elle demande la permission à son prêtre pour y aller. Alors, je peux l'imaginer l'avoir allé vers son prêtre et dire, « Saint-Père, j'entendais qu'ils ont un grand réveil là-bas, en Palestine. J'aimerais avoir la permission d'y aller et de voir par moi-même. Maintenant, mon enfant, bon, tu ne veux pas te mêler dans un... Après tout, nous ne coopérons pas à ce réveil. Alors, tu ne peux pas y aller. » Voyez, c'est juste un tas de non-sens. Il n'y a rien là. Ces gens prétendent qu'ils ont traversé une mer rouge et qu'ils ont fait tout ceci et cela. Il n'y a rien là. S'il y avait quoi que ce soit du genre qui se passe, ce serait ici même, dans notre église. Nous avons encore des païens. Or, nous découvrons qu'elle a commencé à avoir faim. Elle a dit, maintenant, regardez, elle a dit, ils me disent que leur Dieu est représenté dans un être humain là-bas et que sa sagesse surpasse tout. Son discernement est merveilleux. Oh, il n'y a rien là. Elle a dit, mais je vais peut-être... Eh bien, regarde, tu es une reine. Tu ne peux pas être associé à un des gens comme ça. C'est que tu ne peux pas faire ça. Cette bande de gens est reconnue dans le monde comme des fanatiques religieux. Tu ne peux pas faire ça. Mais voyez-vous, quand Dieu traite avec le cœur humain, il n'y a rien pour l'arrêter. Mari, femme, enfant, pasteur, rien ne peut l'arrêter. Quand une personne a vraiment faim de Dieu, ils y vont de toute façon. Alors, elle s'est préparée et a tout préparé. Eh bien, il disait, eh bien, je vais simplement te donner, je vais devoir t'excommunier de notre fraternité. Eh bien, vous pouvez tout aussi bien le faire. J'y vais de toute façon. Je veux voir tout cela par moi-même. Elle avait amené des parchemins. Elle avait lu ce que Jéhovah devait être au sujet de ses prophètes, de ce qu'il devait faire, comment la parole de Dieu serait manifestée, comment reconnaître ces choses quand ce serait représenté, voilé dans la chair humaine, ce que ce se ferait. Et elle avait lu toutes ces choses. Ainsi, je peux l'entendre dire, eh bien, regardez notre livre. Dit ceci, a-t-il dit? Oui, regardez, mon arrière-grand-mère se tenait devant ces mêmes idoles. Elle se levait et récitait des prières jour après jour. Il n'y a jamais eu aucun agissement ou marmonnement ou rien d'autre. Et je suis fatigué de cette vieille forme morte. Je veux aller voir s'il y a un Dieu vivant. C'est dommage que nous n'ayons pas plus de ces reines aujourd'hui. Elle s'est donc préparée à partir, et quand elle en est arrivée au point où elle devait partir, maintenant, souvenez-vous, elle avait une grande difficulté. Ce n'était pas aussi facile que ça le serait pour vous. Là, remarquez ce qu'elle devait faire. Voici une autre chose que je ne veux pas laisser de côté. Elle a dit ceci, je vais là-bas et je vais amener de l'argent. Je vais amener quelques dons. Et si c'est la vérité, je vais la soutenir. Si ce n'est pas la vérité, alors je peux rapporter mon argent. Cette femme pourrait enseigner les pentecôtistes. Oui, monsieur, il supporte d'associer qui rit et se moque de la guérison divine. Et vous soutenez quand même les émissions de radio au lieu de votre propre église. C'est vrai, il rit et se moque des choses même que vous croyez. Mais elle a dit, je vais l'amener. Et si ce n'est pas vrai, je peux le ramener. Maintenant, rappelez-vous, avec toute cette richesse-là, sur ces chameaux, souvenez-vous maintenant, l'armée de cavaliers d'Ismaël était des voleurs dans le désert. Il était là-bas. Quelle chose facile ça aurait été pour eux de tomber sur cette proie. Et bon, ils auraient tué ces quelques eunuques qui était avec elle et pris cet argent, puis aurait disparu. Mais il y a quelque chose à ce sujet quand vous êtes vraiment déterminé et que Dieu se révèle, que vous êtes déterminé à voir Christ, il n'y a pas de danger apparent. Vous n'y portez même pas attention. Le médecin dit que vous allez mourir. Vous ne le remarquez même pas. Lorsque vous êtes épris, vous savez qu'il y a quelque chose là. Quelque chose au fond de son cœur brûlait, la foi en ce Dieu. 3 mois à voyager dans le désert du Sahara. Pas dans une Cadillac climatisée. Non, non, ça lui a pris 3 mois à travers le désert du Sahara. Peut-être qu'elle voyageait la nuit, il lisait les rouleaux dans un oasis durant la journée jusqu'à ce qu'il y arrive. Maintenant, ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit qu'elle va se tenir dans les derniers jours et condamner cette génération, car certains d'entre eux ne traverseront pas la rue. Et il y a ici plus que Salomon, le Saint-Esprit lui-même, voyez. Ça ne sera pas étonnant qu'elle se lèvera dans les derniers jours pour condamner cette génération. Regardez, Elle est finalement arrivée. Elle n'était pas venue, pas comme bien des gens. Certaines personnes vont venir à une réunion inconnue. Elle est venue, elle a pris ses chameaux et elle est sortie dans la cour, a monté ses tentes et elle est restée là jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. La plupart des gens vont venir, peut-être rester assis 5 minutes, peut-être 25, dès que l'évangéliste ou que la personne dit quelque chose qui est contraire à ce qu'elle pense, que son credo dit ou son credo à lui, ils s'en vont. Voyez, ils n'ont aucune manière. Ce n'est pas étonnant qu'elle condamnera cette génération. Elle était venue pour rester jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. Je peux imaginer les premières réunions ce matin-là, quand les trompettes ont toutes retenti, le pasteur Salomon est sorti. Elle peut avoir été assise tout au fond en arrière. Elle a pensé, maintenant, je vais voir par moi-même. Je sais que c'est ce que Jéhovah est censé être. L'homme peut faire des déclarations, mais je vais le découvrir. Elle s'est donc assise là, ce jour-là, et elle regardait, et elle a vu tout le monde venir sur l'estrade. Elle a vu que le discernement était parfait. Enfin, disons que sa carte de prière a été appelée, ce qui n'était sans doute pas le cas, mais son temps est venu de se présenter devant Salomon. Et la Bible dit que quand elle est venue se tenir devant Salomon, que Dieu a laissé Salomon connaître tous ses secrets. Il n'y avait rien de caché. Là, le miracle était accompli sur elle. Alors, elle s'est tournée vers l'auditoire et elle a dit, « Toutes ces choses que j'ai entendues sont vraies et c'est encore plus grand que ce que j'avais entendu parler. » Vous voyez? Oh, il n'y avait plus de vie en elle. Son souffle était coupé. Parce que c'était un homme qui ne la connaissait pas, un étranger qui lui avait révélé les choses qu'elle voulait savoir. Oh, et Jésus se tenait là, qui était plus que Salomon. Il était corporellement la plénitude de la divinité. Il était le Fils de Dieu, né d'une vierge. Il s'est revêtu et Jéhovah lui-même s'est manifesté dans la chair. Et voici qu'il était là, se tenant dans la plénitude, et ils ont dit qu'ils n'allaient pas croire en lui. Un plus grand discernement. Vous voyez, il était Salomon plus David, plus tout le reste d'entre eux. Ils étaient tous en lui. Tous les prophètes étaient réunis en lui, un plus grand que Salomon. Et même quand ce jour-là, il a dit, « Si vous prononcez ces paroles contre moi, je vous pardonnerai. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, ce sera plus grand que c'est maintenant. Et une plus grande condamnation. Et nous sommes ici aujourd'hui, voyant ce même Dieu faire exactement la même chose. Je crois qu'elle se lèvera au jour du jugement et condamnera cette génération parce qu'elle s'est repentie et a cru le message que prêchait Salomon et a cru en Dieu. Elle a vu quelque chose de réel. Vous savez quel est le problème aujourd'hui? C'est qu'il y a des gens, beaucoup de gens, c'est avec les gens qui appartiennent à, et qui ne font qu'aller à l'église et avoir un credo. Vous voyez, ils ont vu tellement qu'il n'était que du faux, tellement qu'il n'était que des statues et tellement qu'il n'était que de beaux grands bâtiments. Et nous ne sommes jamais entraînés dans ce genre de tendance. Vous voyez, Dieu ne réside pas dans les grands bâtiments, il habite dans votre cœur. Vous voyez, Dieu ne réside pas dans l'éducation intellectuelle, il est loin de cela. Il demeure dans l'humilité dans votre cœur. Il demeure dans sa parole et sa parole. Parole entre dans votre cœur et parle elle-même et déclare. Il interprète sa propre parole à travers vous. Il essaie de trouver quelqu'un qu'il peut diriger pour montrer qu'il est toujours Dieu. Vous voyez, il l'est. Il le fera s'il peut seulement avoir quelqu'un à qui il peut parler. S'il peut avoir une autre femme ou avec une perte de sang, il peut encore dire la même chose. Il peut encore faire la même chose, la faire faisant connaître, la déclarant. Nous sommes dans la présence de Dieu et ne la reconnaissons pas. Ça me rappelle une petite histoire. Il se pourrait que je vous l'ai déjà raconté une fois. Je ne sais pas, elle serait appropriée en ce moment. Comme vous le savez tous, je chasse de gros gibier. Je me trouvais dans les bois du Nord, j'allais chasser là tout le temps. J'avais un ami là-bas nommé Bert Call. Il était un bon chasseur à demi-indien. On n'avait jamais à se soucier de lui. Il n'allait pas se perdre. Nous étions de vrais copains, mais c'était l'homme au cœur le plus dur que j'ai jamais vu. Il n'avait tout simplement pas de cœur du tout. Il avait l'habitude de tirer sur les petits fins et sur les petits bébés de la biche juste pour me faire de la peine. Il disait, oh vous les prédicateurs, vous êtes des poules mouillées. Billy, tu serais un bon chasseur si tu n'était pas un prédicateur. Il disait, tu es trop poule mouillée. Bird, ce n'est pas d'être poule mouillée. Bon, maintenant, c'est correct de tuer un fan, si la loi le permet. Abraham a tué un veau. Il en a nourri Dieu. Ce n'est pas la taille ou le sexe dont il est question, mais c'est juste d'être méchant avec ça. Et il tirait ses parents. Il riait. Et ça le faisait rire parce que j'avais de la peine. Et bon, maintenant, il faisait ça. Et une année, je suis allé là-bas. Il s'était inventé un petit sifflet qu'il pouvait imiter comme un petit fan, comme sa pleure, vous savez, pour sa maman. Et il a dit, hey Billy, avant de commencer, commencé ce matin, il a dit, je veux te montrer quelque chose que j'ai. Il me l'a montré. Il a dit, Bert, tu n'utiliserais pas quelque chose comme ça. Il a dit, oh, reprends tes sens. Et ce gars-là avait des yeux comme ceux d'un lézard, comme certaines de ces femmes qui essaient de peindre leurs yeux. Vous savez, comme ça, vous savez, il m'a regardé avec ses yeux de lézard, des yeux qui me faisaient presque peur. Bert, ne fais pas ça. Il a dit, oh, vous, prédicateur à la poule mouillée. Donc, nous étions, je m'étais levé un peu tard cette fois-là, et c'est Saf du Nord, votre serf de Virginie, ici, il va marcher jusqu'à vous, mais pas l'un de ces gaillards. Chaque fois qu'on lui tire dessus, il est, vous parlez d'Houdini comme un maître en évasion, c'est un amateur comparé à eux. Donc, il était tard, et on leur avait tiré dessus, et ces serfs se couchaient pour se cacher, se nourrissaient la nuit au clair de lune et dormant dans la journée. Nous avons marché jusqu'au vieux Jefferson Notch, en haut du mont Washington. Il y avait environ 6 pouces de neige sur le sol, un beau temps pour suivre les pistes, mais on n'a jamais vu une seule piste. Que penses-tu, Billy? Tu les as tous apeurés. Ils sont partis d'ici avec ces vieilles mitrailleuses avec lesquelles tu tires. Et donc, nous avons continué. Après un certain temps, vers 11 heures, nous amenons toujours une de ces bouteilles thermos pleines de chocolat chaud. Si vous blessez ou quelque chose, cela stimule et un sandwich. Donc, il était environ 11h30 et je suppose nous arrivions à une clairière dans la taille de cette aréna ici, ce bâtiment, pas de bois. Il s'est comme assis à poser son fusil contre un arbre, à commencer à fouiller en arrière ici. Et je pensais qu'il allait prendre sa bouteille de thermos. J'ai pensé, eh bien, nous allons manger. Habituellement, nous atteignons le sommet de la montagne avant de manger. Puis, l'un allait dans une direction et l'autre dans une autre. Et nous revenions. Et nous connaissions bien les environs. Et si nous tuions un cerf, nous le suspendions. Puis, nous savions que nous allions nous aider l'un l'autre pour les ramener. Alors, je pensais qu'il allait juste manger son lunch et que nous nous séparerions parce que c'était presque le bord du bois aussi. Il fouillait derrière lui. J'ai commencé à sortir ma bouteille de thermos pour mon chocolat. J'ai commencé à la sortir comme ça. Il a sorti ce vieux petit sifflet de sa poche, et il a soufflé un grand coup comme ça, et il m'a regardé de nouveau avec ses yeux de lézard, et a soufflé dans ce sifflet, puis quand il l'a fait, à peu près à la distance qu'à ce bâtiment, une très grande biche s'est levée. Bon, si certains de nos cœurs ne le savent pas, la biche est la mère du cerf. Et voyez, ce sifflement était un bébé, et il pleurait, et cette grande biche s'est levée. Et de plus, vers 11 heures dans la journée, ceux qui chassent les cerfs savent que ce n'est pas une bonne heure. Ils sont couchés. Or, elle s'est levée et a regardé à l'entour. Je pouvais très bien la voir. Il m'a de nouveau regardé. Il a sifflé un autre coup. Et au lieu de s'enfuir, elle a marché droit dans cette clairière. Maintenant, c'est inhabituel. Ils ne feront pas ça. Tout chasseur le sait. Ils ne le feront pas, mais elle s'est avancée directement là. Pourquoi? Elle était une mère. C'était un bébé. Il était, voyez, c'est simplement inné en elle d'être une mère et ce bébé. Et Bert a baissé les yeux, tiré le cran vers l'arrière, l'a abaissé sur cette 30-06. Et c'était un tireur d'élite. Et je l'ai vu s'épauler comme ça et je savais qu'il allait faire exploser son cœur fidèle de bord en bord, une balle de 180 grains, une balle explosive. Et je pensais, comment peux-tu faire ça, Bert? Comment peux-tu être si mauvais pour attirer cette mère sœur directement là et faire exploser son cœur et elle qui essaie de trouver son bébé? Comment peux-tu être si brutal pour faire ça? Je pensais cela et je l'ai vu s'épauler comme ça et je ne pouvais pas regarder ça. C'était trop. Je suppose que je suis une poule mouillée. J'ai juste tourné le dos et je pensais, Dieu, comment peut-il faire ça? Un être humain peut-il être si méchant pour faire ça, juste de faire exploser le cœur de cette mère fidèle? Maintenant, elle n'essayait pas d'acter, elle ne donnait pas un spectacle, elle était une mère. Elle a vu le chasseur quand elle a enclenché cette arme, mais s'est-elle enfuie? Non, monsieur, son bébé était en difficulté et elle essayait de trouver son bébé. Et j'ai tourné le dos, comme j'ai dit, et j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur Dieu, comment peut-il faire ça? J'ai remarqué et j'ai attendu, le coup de feu n'est pas parti. Et je me suis retourné pour regarder, le canon allait comme ceci. Il ne pouvait plus le tenir. Il s'est retourné. Ses grands yeux de lézard avaient changé. Les larmes coulaient sur ses joues. Il a jeté le fusil sur le banc de neige et il a dit, « Billy, j'en ai assez. Mène-moi à ce Jésus dont tu parles. » Là, sur ce banc de neige, je l'ai conduit à Christ. Pourquoi? Il a vu quelque chose de réel. Il a vu quelque chose d'authentique. S'il se taise, les pierres crieront. Cette mère n'actait aucunement. C'était une authentique mère. Peu importe si c'était la mort ou ce que c'était, elle faisait face à la mort, sachant qu'en seulement une minute, cette balle ferait éclater son cœur, mais elle cherchait son bébé. Oh, si nous pouvions seulement être autant chrétiens que ce cerf était une mère. Pourquoi? Elle était née mère. Elle était née pour être mère. Nous sommes nés pour croire la parole de Dieu. Nous sommes nés pour croire Jésus-Christ. Inclinons la tête. Combien ici, en ce moment, avec la main levée, veulent dire, Frère Branham, je voudrais vraiment être autant chrétien que cette petite biche était une mère. Je souhaiterais que mon cœur soit si rempli de Christ que je puisse me tenir face à quoi que ce soit et être un vrai chrétien, tout autant que ce cerf était une mère. Moi, c'est le genre d'une expérience que je veux. Voulez-vous lever la main? Dieu vous bénisse. C'est très bien. Dieu vous bénisse. Il y en a tellement partout. Je suis si reconnaissant que vous ayez encore quelque chose d'assez réel en vous qui vous fera croire. Voyez, et s'il arrivait que vous ne croyiez pas, ne serait-ce pas pitoyable de voir des incroyants au point où leurs cœurs sont si durs qu'ils ne peuvent pas croire du tout, condamnés, finis, perdus, ne sachant rien à ce sujet, ne sachant pas à quelle heure la mort peut frapper à la porte? Vous devez traverser dans l'éternité. Et Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, devenir autant chrétien que ce cerf était une mère, vous ne verrez jamais Dieu. C'est fini pour vous. Peu importe combien d'églises vous joignez, il parlait à un chef religieux de ce jour-là, Nicodème, un homme âgé de 80 ans. Et il lui avait dit qu'il devait naître, il devait devenir le genre de chrétien comme ce cerf était une mère-là. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas levé leur main, qui reconnaisse vraiment la présence de Dieu? La reconnaisse et voudrait dire, je sais que j'ai tort. Lorsque vous réalisez que vous avez tort, vous reconnaissez la présence de Dieu. Mais quand vous ne savez pas que vous avez tort, la Bible dit, tu es malheureux. Dans cet âge-ci, l'Église allait être malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, et elle ne le sait pas. Pensez simplement, si un homme ou une femme était dans la rue, misérable, aveugle, pauvre, misérable et nu, vous pourriez leur dire qu'ils sont nus et ils vous écouteraient. Mais s'ils sont nus et ne le croient pas, quel dérangement mental c'est? Eh bien, c'est la sorte de condition spirituelle que nous avons. Les gens sont spirituellement aveugles, pauvres, misérables, nus devant Dieu. Des pécheurs essayant de se couvrir eux-mêmes de feuilles de figuier d'une certaine dénomination, ils ne le savent pas. Quelqu'un d'autre veut-il lever la main? Dieu vous bénisse. C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Avant vous, peut-être que vous êtes un étranger ici et n'avez jamais vu Dieu faire une seule chose. Avant que vous voyiez quoi que ce soit, vous êtes prêt à dire, je l'accepte sur la base de la parole. Je sais qu'il y a ici un plus grand que Salomon, le grand Saint-Esprit de Dieu est présent. Je le ressens, j'y crois, je vais lever la main, je suis un pécheur, je réclame le salut. Père Céleste, bénis ceux qui ont la main levée. Nous demandons que ta miséricorde soit accordée à ceux qui sont... des pécheurs. C'est peut-être qu'ils sont membres d'une église. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des pécheurs. Ils ont levé leurs mains. Ils veulent être sauvés, Seigneur. Il y avait quelque chose près d'eux. Ils ont reconnu le Saint-Esprit, là. Ils ont reconnu que c'était Dieu. Il leur disait qu'ils n'avaient pas cette expérience qu'ils devraient avoir. Et ils ont levé la main. Tu as dit, celui qui viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors, je sais que c'est vrai. Tu as dit dans Jean 5, 24, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui vient à moi, je lui donnerai la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Ce sont tes promesses, Père. Je réclame chacun d'eux, peut-être qu'il y a un chrétien, Seigneur, qui essaie de marcher dans la vie, et essaie de vivre mieux chaque jour, et ils veulent une expérience de meilleure marche. Ils ont aussi levé la main. Père, je prie que tu les bénisses, qu'ils trouvent ce soir tout ce qu'il leur faut en Christ, la parole faite chair parmi nous. Accorde-le, Seigneur. Je te les remets au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et comme vous êtes assis vraiment calme, vous voyez juste un instant, oh là là, j'ai dépassé mon temps de 5 minutes. Pardonnez-moi, je ne voulais pas parler si longtemps. Je vous le dis, nous allons juste attendre un instant. Donnez-moi seulement 5 minutes de plus, si vous le voulez bien. Combien savent ce qu'était Dieu? Nous savons ce que la Bible a dit qu'il était, et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus a dit dans Jean au chapitre 14, verset 12, il a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Pas celui qui fait semblant de croire, mais celui qui croit en moi. Est-ce vrai, mes frères ministres? C'est vrai? Combien de lecteurs de la Bible savent que c'est vrai? Les cieux et la terre passeront, mais ses paroles ne peuvent pas faillir. Il a promis cela. Or, il n'y a aucun doute, les gens malades parmi vous, là, je ne vous connais pas du tout, et pour prouver ce que je disais tout à l'heure, comme l'ange Seigneur dans les jours passés, les jours où Jésus a dit, comme il en était au jour de Lot, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Pouvez-vous voir de quoi je parlais, les noms et tout le reste positionné, l'Église dans sa condition, pouvez-vous le voir? Maintenant, je suis sûr que vous lisez entre les lignes les choses que je n'ai pas dites. Vous voyez ce que je voulais dire? Maintenant, si vous, les gens ici qui sont malades et dans le besoin, je suis, qu'ai-je à faire d'être ici? Pourquoi est-ce que je me tiendrais ici en tant que séducteur? Si je faisais cela, il serait temps pour moi. Je ne voudrais pas vivre. Je préférerais mourir. Je préférerais sortir et être tout autre chose qu'un imposteur. Et qu'est-ce que Dieu me ferait? Je ne sais pas si je vais passer la nuit, ni vous. Mais un imposteur, nous voulons être... Qu'est-ce que ça donnerait d'être un imposteur alors que vous pouvez être authentique? Mais voyez-vous? C'est si étrange pour vous. Maintenant, regardez, si je prétends que ces Écritures doivent être accomplies et que je vous ai lu et montré ces deux dernières soirées ce que Jésus était, ce qu'est sa présence maintenant, il est censé revenir dans les derniers jours, nous savons cela, dans la chair humaine, et s'identifier de la même façon. Nous le savons tous, en sommes-nous conscients? Dites Amen, si vous voulez. Très bien. Maintenant, pour votre réconfort, je vous le dis, je vous dis ceci en son nom, il est ici. Le même Dieu qui est descendu et a parlé à Abraham, qui avait le dos tourné à la tente, et Sarah dans la tente, et il savait ce qu'elle pensait. Il a dit la même chose quand il est venu ici. Il a regardé l'auditoire et a discerné ce qui était dans leur cœur. Une femme a touché son vêtement, et il a regardé autour jusqu'à ce qu'il la trouve et lui dise. L'aveugle Bartimée a touché son vêtement quand il a crié, « Toi, fils de David, aie pitié », se trouvant à 200 verges d'où il passait. Sa foi a arrêté le fils de David, de Dieu, sur la route. Il s'est retourné et a dit, amenez-le ici. Le petit Zachée dans l'arbre, il s'était caché, se disant alors qu'il ne croyait pas qu'il était un prophète non plus. Et Jésus est venu directement se tenant sous l'arbre. Il a levé les yeux, il a dit, Zachée, descends. Il l'a appelé par son nom. Alors que Jésus n'avait jamais vu Pierre, André, il l'avait amené là. Quand il a vu venir, il a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Il disant son nom et qui il était, il a dit à Nathanaël où il se trouvait, ce qu'il avait fait, la femme et la condition dans laquelle elle était, ce qu'était son problème, quelle était sa maladie. Ça, c'est Dieu, mes amis. Combien croient cela de tout leur cœur pour dire « Il faut que ce soit Dieu » Combien d'entre vous ici savent que je ne sais rien de vous? Levez la main juste pour signifier. Je sais que cet homme ne sait rien de moi. Il est juste un homme. C'est ce que je suis, simplement votre frère. Je suis ici pour essayer de vous aider. Mais je déclare combien ont lu mon livre et ces choses. Vous le savez, vous croyez que c'est la vérité? Ce sont les derniers jours. Et maintenant que le Seigneur Jésus nous aide. Et s'il vient ce soir, qu'aucun de vous ne bouge, restez bien assis sur vos sièges, là où vous êtes, et croyez. Et le Seigneur Jésus viendra ce soir et confirmera ces choses qu'il a dites, ces choses qu'il a promises. S'il les confirme comme étant la vérité, croirez-vous en lui? Croyez. Père Céleste, maintenant, j'ai parlé de toi, ce que tu étais, ce que tu es. Maintenant, veux-tu venir sur la scène? Et ces gens, assis là dans l'auditoire parfaitement inconnu, te feras-tu connaître à nous ce soir, Seigneur, pour que nous sachions et reconnaissions que ces Écritures sont accomplies, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Alors, si nous vivons dans les derniers jours, comme il a dit qu'il allait se révéler dans les derniers jours, comme il l'a fait à Sodome, avant que le Fils promis ne vienne pour Abraham, eh bien, la semence royale d'Abraham qui s'attend au fils royal, la même chose aurait lieu. Et regardez même les lieux, le temps, les noms, tout est parfaitement en ligne, Père. Aide-nous, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux que vous priez, chacun de vous. Peu importe ce qui ne va pas, demandez-lui simplement. Il est le souverain sacrificateur. En passant, combien de ministres y a-t-il dans le bâtiment? Levez la main partout. Je crois qu'il y en a 30 ou 40. Maintenant, combien d'entre vous savent ceci, que le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament nous dit qu'en ce moment même, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités? Voulez-vous lever la main pour dire, je sais que c'est la vérité, la Bible dit cela? C'est exact. Très bien. Alors, s'il est le souverain sacrificateur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, si vous le touchez ce soir, il agira comme il l'a fait en ce temps-là. Est-ce vrai? comme il l'a fait hier. Eh bien, quand cette femme a touché son vêtement, vous dites, oh, mais si je pouvais, votre foi le fait. Physiquement, il ne l'a jamais senti. C'était la foi de la femme qui a touché le vêtement. Votre foi peut la toucher maintenant. Croyez-vous cela? Or, si la parole de Dieu se manifeste, il révélera la même chose et démontrera la même chose. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Très bien. Maintenant, ayez simplement confiance en lui. Croyez en lui. Ne doutez pas. Mais ayez foi en Dieu qu'il le fera. Quelqu'un dans cette direction? Priez simplement et croyez simplement de tout votre cœur, là. Quelqu'un dans cette direction. Et si Dieu laisse par une ou deux personnes que vous connaissez voir qu'il est infaillible, combien d'entre vous croiront alors que nous reconnaissons sa présence? Alors c'est tout ce qui est nécessaire, c'est tout ce qui est nécessaire. La dame assise juste là. Qui me regarde là, souffrant de troubles cardiaques. Croyez-vous que Dieu va guérir ce cœur, vous guérir? Vous avez des problèmes cardiaques. Si c'est vrai, levez la main. Vous suis inconnu? Je ne vous connais pas. Mais c'est la vérité. Très bien. Vous, la dame aux cheveux gris, assise là. Très bien. La dame avec le verre, vous avez levé la main. Que vous voyez-vous? Votre problème est l'arthrite. Croyez-vous que Dieu va vous guérir de cette arthrite? Si oui, levez la main. Voyez? Très bien. Voyez? Il se trouve qu'en levant... Maintenant, quelque chose est venu sur vous, n'est-ce pas? Voyez, cette lumière. Combien ont déjà vu la photo de cette lumière? Elle est là, juste au-dessus de la femme. Tout à coup, un sentiment vraiment doux est venu sur vous. C'est ce qu'il a fait. Voyez, Dieu vous a béni, vous a guéri, vous a rétabli. Le croyez-vous? Croyez-vous qu'il sait ce qui ne va pas chez vous? Lui seul peut vous guérir. C'est une ombre sombre, l'épilepsie. Si c'est vrai, levez la main, jeune dame. Vous pensez un peu différemment qu'il y a quelques minutes, n'est-ce pas?
Vous
voyez, quand je me suis arrêté d'appeler en faisant cela, c'était pour ça, c'était pour vous. Maintenant, si vous croyez de tout votre cœur, ces crises vont cesser. L'accepterez-vous et croirez-vous de tout votre cœur? Dieu vous bénisse. Allez, croyez-le. Cette dame assise ici souffre de maux d'estomac. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir juste ici au bout? Croyez-vous que Dieu va vous guérir, vous rétablir de ce trouble d'estomac? Oui, vous l'acceptez? D'accord, Dieu vous bénisse. Je suis totalement inconnu pour cette femme. Je ne la connais pas. Elle n'est qu'une femme assise là, mais Dieu la connaît. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Très bien. Ayez simplement la foi. La dame assise juste ici au bout, vous souffrez d'un trouble de la vésicule biliaire. Vous avez des calculs biliaires, du foie qui vous tracassent. Si c'est vrai, levez la main. Je vous suis totalement inconnu. Si c'est vrai, voyez, une dame assise juste à côté de vous, elle souffre aussi. Vous voyez cela? Ne vous faites pas voir cette lumière au-dessus de cette femme? La dame a un trouble de rein. C'est exact. Elle a une intoxication urinique dans ses reins. C'est vrai, levez la main. La dame qui vous a touché, là, elle souffre d'une affection nerveuse. Vous êtes toutes les deux des inconnus. Vous n'êtes pas d'ici. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes de l'Iowa. Vous venez de la ville des moines. C'est vrai, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre nom, comme il l'a fait pour Pierre? Si vous croyez de tout votre cœur, votre nom est Madame Wolf. C'est vrai, levez la main. Très bien, rentrez chez vous. Guéri, Jésus-Christ vous rétablit. Reconnaissez-vous sa présence? Savez-vous qu'il est ici? Alors ne voulez-vous pas vous imposer les mains les uns les autres? Maintenant, alors que le Saint-Esprit est sur vous, c'est le Saint-Esprit sur vous. Maintenant, chacun de vous peut être guéri si vous y croyez simplement. Le croyez-vous de tout votre cœur? Père Céleste, il ne reste que la foi maintenant. Nous renonçons maintenant à toutes les ténèbres. Lorsque le réveil, comme je l'ai dit au début, la vague retombe sur l'eau pour barater de haut en bas, pour en sortir l'incrédulité. Maintenant, alors que le Saint-Esprit va et vient sur les gens ici, puisse toute incrédulité être enlevée et que la puissance du Dieu Tout-Puissant libérer tous ceux qui souffrent ce soir. Je réprimande le diable. Satan, tu n'es qu'un bluff et tu es exposé ici parmi ces gens par la preuve scripturaire de Jésus ressuscité, toujours vivant. Je t'adjure par le Dieu vivant, sors de ces gens et laisse-les aller pour la gloire de Dieu. tous ceux qui acceptent leur guérison, levez-vous maintenant et dites, je crois vraiment, peu importe ce qui se passe, combien de temps cela prendra, je saurai toujours que je vais me rétablir, je l'accepte de tout mon cœur. Levez les mains maintenant. Merci Seigneur. Louez le Seigneur, c'est ça, donnez-lui la louange. Maintenant, levez simplement les mains et louez-le pour votre guérison, comme vous le faites dans vos églises. Ah.